Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 23 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer les titres, au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko doit avoir lieu ce matin à Dakar. En Guinée, face aux restrictions actuelles, la presse privée annonce boycotter toutes les activités des autorités dominées par la junte au pouvoir. En RDC, l'épiscopat condamne une répression policière contre des opposants. Au Soudan, combat à Khartoum malgré l'entrée en vigueur officielle d'une nouvelle trêve. Au Libéria, 4 suspects disparaissent dans une grosse affaire de drogue, temps plus amène. Après les discussions Biden-McCarthy hier à la Maison-Blanche, mais les désaccords persistent sur la dette américaine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le procès d'Ousmane Sonko doit avoir lieu ce matin devant les chambres criminelles du tribunal de grande instance de Dakar. L'opposant est accusé de viol par une masseuse du nom d'Adjissar. Si cette dernière sera au procès, le maire de Ziguinchor, lui, n'y sera probablement pas, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Après un premier report, il y a une semaine, le procès pour le viol présumé dont est accusé Ousmane Sonko doit s'ouvrir ce mardi matin à Dakar. Si les conseils de la dame Adjissar ont annoncé que leur cliente était prête à faire face au maire de Ziguinchor, ce dernier est toujours dans la localité qu'il dirige au sud du pays. Beaucoup de rumeurs faisaient état de son arrivée imminente dans la capitale pour éventuellement assister au procès. Mais pour le moment, l'opposant Ousmane Sonko reste sur sa position de ne pas répondre à une justice qu'il juge impartiale et à la solde de l'exécutif. À Ziguinchor, où il est actuellement, Ousmane Sonko peut compter sur les jeunes qui ont érigé des barricades sur toutes les artères menant à son domicile. Pour eux, même si le juge délivre une ordonnance de prise de corps, il sera hors de question que leur leader soit arrêté et amené de force à son procès. Face à cette situation tendue, les forces de défense et de sécurité restent en alerte à Ziguinchor, mais aussi dans beaucoup de localités du pays, dont Dakar, la capitale, où la police et la gendarmerie sont positionnées dans les endroits stratégiques. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
En Guinée, les associations de presse ont annoncé hier boycotter toutes les activités des autorités dominées par les militaires tant que la junte ne lèvera pas les restrictions imposées à la diffusion de l'information comme la limitation de l'accès à Internet. Les organisations représentant télévision, radio, journaux et sites d'information privés ont par ailleurs déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre des Télécommunications Ousmane Gaou Diallo, ennemi de la presse guinéenne. M. Diallo avait cependant démenti toute implication des autorités dans les perturbations sur Internet et dans la saisie la semaine passée des émetteurs de deux radios du groupe de presse Afrique Vision. Des combats à Khartoum lundi soir, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires, censés laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les militaires des FSR, Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, a fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés et réfugiés. Une dizaine de cessez-le-feu ont déjà été promis et aussitôt violés au Soudan. Le nombre de réfugiés qui ont fui les combats au Soudan augmente très vite et avoisine les 90 000 au Tchad, s'est alarmé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Michel Joseph.
Nous pensons que nous sommes proches des 90 000 personnes, a déclaré hier à N'Djamena Raouf Mazou, le haut commissaire assistant chargé des opérations du HCR. Trois jours auparavant, l'ONU les estimait à 76 000 réfugiés soudanais. Ils sont entassés dans des camps de fortune dans l'est du pays, proche de la frontière avec le Soudan, dans une zone désertique. Plus de 90% sont des femmes et des enfants, a précisé M. Mazou au terme d'une visite de 4 jours au Tchad. Il dit redouter la saison des pluies qui va bientôt commencer et constituer un obstacle de plus pour leur porter assistance. Nous félicitons le Tchad d'avoir fait preuve de solidarité, mais le Tchad ne peut pas le faire tout seul, a-t-il conclu, exhortant la communauté internationale à partager ce fardeau avec voisins du Soudan et à apporter un soutien urgent. Le 17 mai, les Nations Unies ont lancé un appel de fonds de 3 milliards de dollars pour venir en aide à des millions de personnes au Soudan et à des centaines de milliers qui ont fui vers les pays voisins.
En République démocratique du Congo, l'épiscopat a condamné hier la répression d'une manifestation de l'opposition samedi à Kinshasa. Cette répression a été aussi condamnée par les États-Unis, John Linden.
Dans un communiqué, la Conférence épiscopale nationale du Congo dénonce ce qu'elle qualifie de répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligé aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. La SENCO, selon Mgr Donatien Cholet, a appelé les autorités à mener des enquêtes sérieuses sur ces violations. La police a reproché aux manifestants de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par le gouverneur de Kinshasa, poussant au face-à-face qui a vite dégénéré. Des personnes ont été bastonnées, malmenées, dépouillées ou encore interpellées violemment, dont des mineurs, écrit la SENCO. Dans une note aux médias, les États-Unis se sont dit préoccupés par les indications d'un usage disproportionné de la force. Washington réitère son engagement pour le droit de réunion, pour la liberté d'expression et de la presse, qui, selon les États-Unis, constitue le fondement d'une démocratie saine.
Au Libéria, les autorités ont reconnu hier avoir perdu la trace de 4 hommes récemment jugés et disculpés après la saisie de 100 millions de dollars de cocaïne. Le jugement a choqué jusqu'au ministre de la Justice, Rosine Monezero.
Un tribunal criminel de Morondia a déclaré non coupable le 18 mai un Libérien, un Bissau-Guinéen, un Portugais et un Libanais. Ils ont été arrêtés en octobre 2022 dans une affaire de 520 kilos de cocaïne d'une valeur évaluée à 100 millions de dollars, dissimulée dans un conteneur en provenance du Brésil. Ils avaient tenté d'acheter le conteneur. Leur jugement a d'autant plus surpris que le tribunal a ordonné la restitution aux suspects de 200 000 dollars saisis lors de l'opération. Les 4 suspects ont été libérés et ont disparu, a dit Ledgerwood Rennie, ministre de l'Information. Cette décision fait du Libéria la risée mondiale, d'après Frank Moussa Dean Jr., ministre libérien de la Justice. Il ajoute qu'une telle décision sape clairement les efforts du Libéria et ses alliés internationaux pour lutter contre le trafic illicite de drogue. C'était l'une des prises les plus importantes jamais réalisées dans le pays grâce à une coopération avec les États-Unis et le Brésil. Des avocats et procureurs auraient donné pour consigne à des accusés de payer des pots de vin pour obtenir des décisions favorables des juges, disent les affaires étrangères des États-Unis, principal partenaire du Libéria.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, pas d'accord encore, malgré une discussion productive entre le président démocrate Joe Biden et le chef républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Ils sont à la recherche d'un compromis pour relever le plafond de la dette américaine. Claire Morin-Gibourg.
Alors que plane la menace d'un défaut de paiement américain, Joe Biden et Kevin McCarthy ont voulu croire hier à une sortie de crise, mais leurs désaccords ne sont pas encore surmontés. Le président américain a évoqué une réunion productive et a appelé à négocier de bonne foi pour trouver un compromis budgétaire. Le chef de l'opposition a lui affirmé que le ton ce soir était meilleur que toutes les fois précédentes, mais lui aussi reconnaît des divergences de fond. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a rappelé lundi qu'il était très probable que les États-Unis se retrouvent à court d'argent public après le 1er juin. Pour lever le risque d'une banqueroute, il faut que le Congrès, le Sénat tenu par les démocrates et la Chambre à majorité républicaine, vote pour relever le plafond maximal d'endettement public autorisé. Les républicains exigent en retour une forte réduction des dépenses publiques. Joe Biden, qui fait campagne pour sa réélection en 2024 sur une promesse de justice sociale, s'y oppose.
19 jeunes ont péri dimanche au Guyana dans un incendie possiblement malveillant selon la police. Ça a eu lieu dans la ville minière enclavée de Madia. Les victimes ont été prises au piège dans le bâtiment dont les fenêtres étaient pourvues de barreaux. La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, la mi-récolte de cacao d'avril à septembre s'avère prometteuse en raison de pluies supérieures à la moyenne dans la plupart des régions productrices. Dans les régions d'Aboville, d'Ivo et Abengourou, où les pluies ont été bien supérieures à la moyenne, les planteurs prévoient une récolte abondante à partir de la mi-août. Certains agriculteurs craignent le moisissement des graines car il sera difficile de les sécher correctement. La Banque centrale du Ghana a maintenu son taux d'intérêt à 29,5% lundi, affirmant qu'une politique monétaire stricte et une relative stabilité du taux de change aideront à la baisse de l'inflation. Celle-ci a ralenti pour le quatrième mois consécutif en avril à 41,2% après avoir atteint 54,1% en décembre. Terminons par le Botswana qui s'engage à ce que les énergies renouvelables représentent au moins 30% de son mix énergétique d'ici 2030 et 50% à l'horizon 2036. Selon la Banque mondiale, le pays bénéficie de plus de 3200 heures d'ensoleillement par an et possède l'un des niveaux d'irradiation directe normale solaire les plus élevés au monde.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Juventus Turin a écopé lundi d'une nouvelle pénalité de 10 points.
Décision intervenue après révision à la baisse de la sanction initiale de 15 points pour fraude comptable, ce qui complique ses chances de jouer la prochaine Ligue des Champions. L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a exprimé son agacement et a souhaité que cette histoire se termine. Cette nouvelle pénalité, prononcée lundi par la Cour d'appel de la Fédération italienne de football, fait reculer la Juventus de la 2e à la 6e ou 7e place au classement de Serie A à 5 points de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, occupée par l'AS Milan 4e, avant le match des Bianconeri en soirée à Empoli.
Angleterre, Newcastle s'invite en Ligue des Champions.
Tenu en échec chez lui par le relégable Leicester, 0 but partout, Newcastle a inscrit le petit point qui lui assure de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, lundi, en clôture de la 37e journée de Première Ligue. Avec 70 points, les Magpies, 3e, ne peuvent plus être dépassés par Liverpool, 5e, et qui a 4 longueurs de retard à une journée de la fin.
Insulte contre Vinicius, le Brésil exprime son mécontentement à l'Espagne.
Le gouvernement brésilien a appelé lundi l'ambassadrice d'Espagne pour lui faire part de son mécontentement face aux actes racistes et contre la star du Real Madrid, Vinicius Junior, insulté dimanche lors d'un match du championnat espagnol. Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de singe lors de la défaite de son club contre Valence, 1-0. Cet événement qui a fait une fois de plus planer l'ombre du racisme sur le football espagnol a suscité une vague d'indignation. La justice espagnole a ouvert une enquête lundi, de nouveau confrontée au fléau du racisme dans ses stades. Dans le rapport remis comme chaque semaine aux autorités compétentes, la Liga a déclaré lundi soir avoir identifié distinctement des insultes racistes et des cris de singe.
NBA, les Nuggets éliminent les Lakers et se qualifient pour leur première finale.
Tout à fait, Idrissa. Denver s'est qualifié pour la première finale NBA de son histoire en s'imposant chez les Lakers 113-111, balayé 4 victoires à 0 en finale de la conférence Ouest et lundi en playoff. Les Nuggets du double MVP Nikola Jokic Enquête d'un premier titre, attendent de connaître leur futur adversaire, vraisemblablement le Heat de Miami qui mène 3-0 à l'Est contre les Boston Celtics.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Nations Unies s'inquiètent du fait que la violence dans la région du Darfour occidental au Soudan pourrait s'étendre aux pays voisins et le chef de la police tchadienne a déclaré à la VOA qu'il exhorte les citoyens à rester calmes. Un reportage d'Henry Wilkins de la VOA, récit de Arzuma Compaoré.
Dans la ville de Koufroune, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, on entend des coups de feu provenant de la ville de Tindelti, à environ 900 mètres à l'est. Des combats ont éclaté dans la nuit entre des groupes armés arabes et des civils noirs soudanais qui tentaient de se défendre contre ce qu'ils appelaient des Janjaweed. Un homme blessé par balle à l'épaule gauche dit qu'il y a eu des affrontements de l'autre côté de la frontière et que des hommes armés sont entrés dans la ville.
Il y a eu des affrontements à la frontière et certains hommes armés sont entrés dans la ville. Certains d'entre nous ont essayé de se défendre.
Un véhicule arrive pour emmener le blessé au centre médical le plus proche. Les analystes estiment que les violences intercommunautaires au Darfour occidental, déclenchées par le conflit interne au Soudan qui a débuté le 15 avril, sont susceptibles de s'étendre au-delà de la frontière avec le Tchad. Bakri El-Medni, professeur d'administration publique à l'Université de Long Island aux États-Unis, est un spécialiste de la résolution des conflits et du Soudan.
Le fait est qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, des États-Unis ou de qui que ce soit que le Soudan continue à être en conflit, car il est certain à 100% que la poursuite et la prolongation du conflit au Soudan aura de répercussions.
De retour à Koufroune, le chaos s'installe parmi les milliers de réfugiés soudanais qui ont fui au Tchad. Les corps d'amis et de parents commencent à arriver de l'autre côté de la frontière. Les réfugiés ont tiré des chemises sur les visages des défunts, des linceuls de fortune. La VOA a compté au moins 3 corps. Pour certains, ces scènes sont trop fortes. Les analystes soulignent que la guerre du Darfour en 2003 s'est rapidement étendue à cette région du Tchad. Hoynati Remadji est analyste à l'Institut d'études et de sécurité basé au Tchad.
C'est quelque chose de très dangereux et qui peut très facilement étendre les combats au Tchad en raison de la composition de la présence des forces elles-mêmes. C'est très ethnique.
Les forces de sécurité tchadiennes commencent à évacuer la foule alors que d'autres corps arrivent. Plus tard dans la journée, le chef de la police tchadienne, Hamid Doudoua, a fait ce commentaire à la VOA sur les événements qui se sont déroulés à Koufroune.
S'il s'avère que ce sont les rebelles soudanais qui ont tiré et non le gouvernement soudanais, je vous dirais que toutes les mesures ont été prises. Tout est sous contrôle maintenant. Donc, si vous avez vu ce qui s'est passé, cela ne se reproduira pas. Là où ils l'ont vu venir, des mesures ont été prises pour le maîtriser. Restez calme et marchez. Restez calme.
500 mètres à l'intérieur du Tchad, une balle touche le sol et une autre passe à proximité. Certains membres de la foule ont commencé à paniquer et à battre en retraite. Sécurité oblige, le reporter se résout à quitter la zone.
Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Les évêques catholiques ont, sans les nommer, accusé dimanche des responsables politiques congolais d'instrumentaliser le conflit communautaire entre les Yaka et les Teke, conflit qui a fait des centaines de morts dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Eddy Issango a joint à Kinshasa le chancelier du cardinal Fridolin Ambongo, l'abbé Édouard Issango.
Les évêques sont revenus en fait sur cette situation et démontrer en fait ce qui se passe là, qu'on appelle communément conflit Teke-Yaka, Mais après plusieurs voyages que son éminence a effectué là, bien avant même cette question ordinaire, il y a eu deux voyages qu'il a effectués dans les bandes d'Indi et à Kwamunki. Ils sont passés par Kasumbolinda, Popokabaka, dans les endroits où habitent les Tété et les Yaka. On s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas un conflit entre les peuples, mais c'est plutôt une sorte de récupération d'un conflit forcé au départ et qui a pris d'autres allures. Hein. Je pense que là, quand même, il devait conduire un peu dénoncer cela, parce que quand vous posez la question au Téké, ils sont en conflit avec les Yaka, ils disent non. Quand vous posez la question aux autres Yaka et les Yaka qui vivent là-bas, qui sont en conflit avec les Téké, ils vous disent non. Les médias en parlent. On s'est rendu compte qu'en réalité, il y a une main noire derrière tout cela.
Justement, quand vous parlez d'une main noire de ceux qui sont à Kinshasa, qui est-ce que vous visez? C'est qui exactement?
Personne n'est visé, mais je tiens simplement à vous rappeler qu'il y a eu un rapport établi par son éminence fait dans le cardinal Ambongo après les deux premières visites qu'il a effectuées dans les Bandili et dans les Kwamou. Et dans ces rapports-là, vous trouvez les noms des personnes qui sont impliquées dans ces conflits. Ces rapports ont été déposés auprès du premier ministre. Et je crois que même les services de renseignement connaissent ces personnes-là. Donc, ce n'est pas le rôle des évêques de citer les noms de ces personnes, mais si on se réfère à ces rapports-là, tout le monde pourra trouver les noms de personnes qui sont apparemment en train de tirer les ficelles et de tirer les dividendes de ce que tout le monde appelle les conflits d'été. Il y a quand même des proportions de plus en plus inquiétantes au détriment de la population locale.
Quelles sont les solutions que les évêques catholiques proposent alors?
Et parmi les solutions, il dit, puisque ces personnes sont connues, les rapports sont connus, les services de renseignement connaissent ces personnes, il dit, la solution, premièrement, c'est d'abord la solidarité par rapport aux victimes de ces conflits. Deuxièmement, c'est appliquer la justice. La justice, c'est que ces personnes-là soient sanctionnées. Je crois que les évêques, dans leur message, parlent de pyromanes qu'on transforme en sapeurs-pompiers. Comment voulez-vous que des personnes qui sont commises, comme étant des instigateurs ou des assistants nécessaires dans ces conflits, puissent être établis comme étant des sapeurs-pompiers? Je crois que s'il n'y a pas eu la justice par rapport à cela, il n'y a pas un élan de solidarité par rapport à cela, mais si on n'arrive pas à mettre ces deux peuples ensemble, au-delà de ces deux peuples de Kéaka, il y a beaucoup d'autres peuples ensemble pour régler les conflits de terre, et je crois que le problème ne sera jamais là.
L'abbé Edouard Isango, chancelier du cardinal Fridolin Ambongo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Nigeria a mis en service hier la raffinerie géante de l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Cette méga raffinerie devrait réduire les importations de produits pétroliers dans un pays où les ressources exploitées sont jusqu'ici exportées à l'état brut. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Elle est située dans la vaste zone industrielle de Lekki, à Lagos, la capitale économique du Nigeria, couvrant une superficie de plus de 2000 hectares. La raffinerie de Dangote est considérée comme la plus grande raffinerie à trait unique au monde, avec une capacité de production de 650 000 barils par jour. La raffinerie est alimentée par une centrale électrique de 435 MW et pourra, selon les experts, répondre à 100% aux besoins nigériens en produits raffinés et même produire un excédent pour les exportations. Les Nigériens que nous avons rencontrés s'en félicitent.
C'est une nouvelle qu'il faut accueillir positivement. En fait, en le faisant, probablement, considérant la situation actuelle des choses, la nouvelle administration qui sera investie bientôt pourra au moins en profiter pour supprimer la subvention au carburant ou même ne pas y penser du tout. C'est une bonne chose et je pense que les Nigériens ont besoin de plus d'incitatives comme celle-là. Si nous pouvons reproduire cela dans tous les États et que nous avons la capacité d'apporter la main-d'œuvre pour la maintenance, parce que le problème que nous avons, ce n'est pas d'avoir des infrastructures. Nous avons des infrastructures incroyables au Nigeria, mais c'est l'entretien qui est le problème.
Le Nigeria, grand producteur de brut, est dépendant des produits pétroliers raffinés importés en raison du manque de capacité de raffinage au niveau national. La raffinerie de Dangote doublera la capacité de raffinage du Nigeria et contribuera à répondre à la demande intérieure croissante de carburant. Edo Felah Benjamin, conducteur de taxi à Abuja.
Si tout le monde, différentes personnes comme Dangote, acceptent l'idée d'essayer d'investir dans un secteur de l'économie ou un autre pour améliorer la vie des gens, je pense qu'il n'y a rien de mal dans ça. Si quelqu'un a la capacité de le faire, c'est bien. Après tout, le gouvernement a été incapable de faire ce qu'il devait faire il y a longtemps. Donc, il sent qu'il peut investir et faire des profits, mais à long terme, les Nigérians en profiteront également. Je ne pense pas que cela soit une mauvaise idée.
En plus des milliers d'emplois directs qui seront créés, la raffinerie de Dangote et le complexe pétrochimique devraient générer environ 100 000 opportunités d'emplois indirects, contribuant ainsi à la croissance économique et au marché du travail du Nigeria. Bakary Elemu, économiste.
Le premier impact sur les Nigérians est que les prix du carburant ou du gaz vont baisser et cela incitera même le gouvernement à supprimer la subvention. Parce que depuis plus d'une décennie, le Nigeria importe du carburant raffiné et cela va aussi aider à générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement.
Le Nigeria importe actuellement plus de 70% de ses produits pétroliers raffinés, ce qui en fait l'un des plus grands importateurs de pétrole raffiné en Afrique. Une donne qui devrait changer cette nouvelle raffinerie, c'est du moins l'espoir de beaucoup de Nigérians. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, une grève illimitée a débuté hier au centre des urgences de Yaoundé. C'est le principal établissement hospitalier de la capitale qui prend en charge les patients dont le pronostic vital est engagé. Le personnel de santé revendique le recrutement à la fonction publique après 9 années d'attente et sans salaire, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Entre 7h30 et 12h30 ce lundi, plus d'une centaine de personnels de santé du centre des urgences de Yaoundé n'ont pas vaqué à leurs occupations. Postés à l'entrée principale de l'hôpital, ils ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire leurs revendications. Roland Brice Nga, hygiéniste au centre des urgences de Yaoundé.
Nous réclamons notre contractualisation qui nous a été promise depuis janvier 2015 à l'ouverture de la structure. Les motivations même qu'on nous donne ici, vraiment c'est des trucs de catéchistes. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui gagne 100 000 ici. On commence 45 000, 78 000, voilà.
Les grévistes ont aussi des réclamations en rapport avec la sécurité sociale. Anastasie Nga, infirmière diplômée d'État au centre des urgences de Yaoundé.
Dans nos contrats signés, l'article 7 nous disait qu'on avait une assurance sociale. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait, mais ces retenues sont effectives dans nos motivations mensuelles. Et nous nous posons donc la question, après notre retraite, qu'allons-nous devenir? Donc c'est pour ça que nous crions haut et fort que, à défaut de la contractualisation, si au moins on peut nous régulariser cette sécurité sociale.
Deux principaux leaders de syndicats du secteur de la santé sont aux côtés du personnel en grève.
Mes camarades vivent très mal dans cet hôpital.
Bala Bala, président du syndicat national des personnels médico-sanitaires au Cameroun.
Nous avons eu, n'est-ce pas, à rencontrer le gouvernement qui nous avait demandé 6 mois pour résoudre l'essentiel des problèmes qui sont posés aujourd'hui. Les 6 mois se sont expirés le 13 février 2023. Donc après cette échéance-là, jusqu'à aujourd'hui, toutes les correspondances que nous avons envoyées à l'endroit du gouvernement sont restées lettres mortes. Et le mouvement d'aujourd'hui même, nous avons déposé le mot d'ordre de grève le 4 mai 2023.
Une concertation initiée entre le secrétaire général du ministère de la Santé et les syndicats a avorté hier. Les syndicats exigent des interlocuteurs à même de prendre des décisions. Sylvain Nga Onana, président du syndicat national du personnel et entreprise du secteur de la santé au Cameroun, Cap Santé.
Le ministre n'est pas là, ils nous ont dit qu'il y aura une réunion multisectorielle. Nous attendons des actes concrets.
C'est la même intransigeance qu'exprime Bala Bala, président du syndicat national des personnels médico-sanitaires.
Nous, on attend les décrets. S'il n'y a pas de décret, nous, on continue à pleurer en route.
pour le premier jour. Le débrayage des grévistes n'a duré que 5 heures, mais la grève pourrait durcir. Une source administrative de l'hôpital a confié à VOA Afrique sous anonymat que l'établissement enregistre près de 100 millions de francs CFA de dette par an, parce que 90% des malades ne règlent pas leurs factures. Nos tentatives d'entrer en contact avec Dr Lubitang Amatok, le directeur de cet hôpital, sont restées vaines. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, merci d'avoir suivi cette édition. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.